أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons essayer avec l'aide de Dieu de conclure aujourd'hui la série des mariages considérés invalide selon les écoles de droit. Et puis après je parlerai de mariage sujet de, on va dire, de divergence inchallah pour conclure cette série. Et puis après on passera au plus deuxième grand chapitre inchallah de ces conférences se rapportant au divorce et tout ce qui s'ensuit comme conséquence sur le plan juridique. Donc après avoir bien détaillé la dernière fois la question du mariage que j'ai appelé le mariage de jouissance, zawajul muta, et quels sont les arguments, sa définition, puis les arguments avancés par les chiites jafarites pour sa validité, ainsi que les arguments et les avis des sunnites par rapport à cette relation que j'avais conclue par la citation d'Ibn Abd al-Barr rahimahullah al-Malikite l'Andalou, dans laquelle il avait dit clairement innahu laysa bizawaj walakinahu sifah. Chez nous il dit c'est pas un mariage mais c'est de la fornication. Donc ça, mais j'avais donné des avis se rapportant. Il y a un autre type de contrat qui est en vogue actuellement et depuis quelques années et qui est, selon l'avis de la majorité des savants de l'orthodoxie, c'est un mariage invalide, mais que certains juristes valident. C'est ce qu'on appelle en vérité le mariage. Maintenant, il y a une confusion dans la traduction. Certains traduisent le mariage Zawaj al-Mut'a par mariage temporaire. Moi, je ne suis pas d'accord. J'appelle plutôt Zawaj al-Mut'a mariage de jouissance, et ce contrat que je vais maintenant discuter, je l'appellerai un mariage temporaire, ou on l'appelle aussi le mariage du voyageur, soit Zawaj al-Mu'aqqat en arabe ou Zawaj al-Musafir. Quoi consiste-t-il? Il consiste à ce que quelqu'un qui part loin de chez lui, un homme, soit pour du commerce ou pour des études ou autre raison, et pour ne pas rester célibataire avec le danger peut-être éventuel de tomber dans la fornication, alors il contracte un mariage, mais dont il détermine la durée avec la personne concernée. Il se marie pour un an, pour deux ans. Et donc, ils disent que c'est un contrat qui est institué par les mêmes termes et les mêmes conditions qui sont stipulées dans un contrat de mariage normal. Donc, c'est les mêmes termes pour l'instituer et les mêmes conditions qu'un mariage. Simplement, il est déterminé dans le temps. Un temps qui peut être un temps minime ou un temps assez étendu. Chez les chiites, il est un sous-ensemble, en vérité, du mariage de jouissance. Vous avez le qism en arabe et vous avez le qasim. Qism min al-shay, c'est une catégorie. Ou le qasim, c'est vraiment le sous-ensemble de la catégorie elle-même. Donc il dit, c'est comme si c'était une sous-catégorie de Zawaj al-Mut'a. Les seuls qui le valident, ce sont certains savants hanafites. Les seuls qui valident, j'ai pas dit l'école hanafite, j'ai dit certains savants hanafites valident ce type de contrat, mais en vérité, l'avis le plus plausible chez Abu Hanif, c'est qu'il l'invalide, lui, comme imam de l'école, mais certains hanafites. Et c'est à partir de cette divergence qu'on voit certains juristes contemporains, ils l'ont permis aux étudiants musulmans qui sont trouvés dans une situation dans des pays non musulmans pour ne pas tomber dans le zina. Et alors on a vu ça surtout vers les années 70 en vogue, lorsqu'il y avait beaucoup de jeunes musulmans qui sont partis dans les pays socialistes et alors en Bulgarie et autres dans le temps, et alors vous le voyez, il est marié pendant un an, deux ans, puis après il divorce et il rentre chez lui dans son pays d'origine. Et donc c'est à partir de cette fatwa qui a été donnée. Mais la grande majorité des savants sunnites, j'ai dit l'invalide, pourquoi? Parce qu'ils disent déjà, premièrement, il n'y a pas de preuve à partir des textes légaux, qui le permettent. Donc c'est un ijtihad. C'est un effort de réflexion juridique, et l'ijtihad n'est pas forcément, il ne peut pas être forcément correct. Comme vous le savez, le fiqh, le droit, c'est la vie des hommes. Le fiqh, c'est la vie des hommes. Mais quand est-ce qu'il est pris en considération si ses fondements sont, ils se fondent sur les textes? C'est pour ça qu'on définit le fiqh, le droit musulman, on les définit comme étant, c'est l'ensemble des règles légales, pratiques, ils insistent sur le mot pratique pour le différencier de l'éthique ou du dogme, déduites de leur source qui les ont détaillées. الفقه هي الأحكام العملية هي الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. Ça c'est la définition, on va dire, juridique du terme fiqh. Donc ils disent, le fiqh c'est quoi? C'est l'ensemble des règles légales pratiques déduites de leur source. Leur source c'est quoi? C'est le Coran, le Sunna, et l'Ijma, le Qiyas. C'est ça les sources. Donc lorsque la vie de l'érudit, du faqih, il s'appuie sur un texte légal explicite, clair, Coran ou Sunna de Rasul Sallam, ou Allah sur un consensus, alors il a une force. Et alors on dit qu'il fait partie de la charia, puisqu'il s'appuie sur les sources de la charia elle-même. Parce que la charia veut dire l'islam. Hein. Le terme charia, beaucoup de gens ne le comprennent et le confondent. On entend beaucoup de gens utiliser le terme charia et ils ne comprennent même pas ce que veut dire la définition du terme. Et pour eux, charia, c'est la dimension juridique. Et même il y en a certains qui délimitent le terme charia pour le code pénal. Le hudud. Tandis que sharia, al-sharia, tout, telle qu'elle est définie par l'ensemble des savants de l'islam, c'est synonyme de l'islam. C'est-à-dire, c'est l'aqidatu, wal-akhlaqu, wal-mu'amalat. L'aqida, ça, c'est fait partie de sharia. Et la morale, ça fait partie de sharia. Et l'ibadat fait partie de sharia. Wal-mu'amalat. Et les relations sociales avec tout leur domaine, ça, c'est sharia. Donc, sharia, en vérité, c'est l'islam. Il y a beaucoup de gens, ils parlent de charia d'une manière qui est tout à fait ridicule, il est réducteur, c'est-à-dire pour eux, charia, c'est la dimension juridique et même pénale, le hudud. Ça, c'est faux. C'est pas ça, charia. Et donc, je répète, donc, lorsque le faqih, l'érudit, se prononce, son avis peut être fondé, comme son avis peut ne pas être fondé. Et c'est pour ça que le prophète sallam nous a dit clairement que les juristes ou l'érudit peuvent se tromper. Il a dit, mais il a dit, il est du devoir de l'érudit de faire l'effort de réflexion pour expliciter l'islam à la umma, mais pour que cette explication et la proposition de l'islam à la umma ne se fait pas d'une manière, on va dire, illégale, les savants eux-mêmes, ils se sont organisés pour que dire, c'est pas n'importe qui peut mettre ses pieds dans ce domaine, que ceux qui maîtrisent des outils. Et alors, ils ont systématisé l'ijtihad à travers la connaissance de usul fiqh, de la langue arabe, de la grammaire, de la conjugaison, du Coran et ses sciences, le hadith et ses sciences, ce qu'on appelle les conditions de l'érudition. Donc, ils se sont imposés. Et malgré ça, ce sont des humains. Donc, ils peuvent faire erreur. Si, par exemple, leur avis n'est pas fondé sur un texte, alors ils vont donner un avis. Et cet avis peut ne pas être juste, mais malgré ça, ils sont récompensés. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ijtahada wa asaba, falahu ajrani. Celui qui fait un effort de réflexion pour la umma, en toute sincérité, avec la maîtrise des outils. C'est ça ce qu'il veut dire. Il a deux récompenses, si son avis il est fondé, il est juste. Et s'il fait erreur, falahu ajrani, il a une récompense, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-fiqhu, lorsque c'est l'avis qui ne se base pas sur les sources, il peut être sujet d'erreur comme il peut être sujet d'authenticité. Là, l'avis des Hanafites, il n'est pas fondé. Il n'y a pas de texte. Donc c'est un ijtihad. Ça, c'est un. C'est ça qui fait que l'avis de la majorité des savants de l'islam est plus plausible, plus fondé. Un. Deux. Ce type de mariage va à l'encontre de l'essence même du mariage en islam. Rappelez-vous, on avait expliqué quelle est la finalité du mariage en islam. La finalité du mariage en islam n'est pas uniquement satisfaire son instinct sexuel, c'est pas ça le but. Ça, c'est une des causes des motivations. Mais les motivations sont autres. Et alors, lorsqu'on se marie pour un an ou pour deux ans, ben, ça va à l'encontre du principe même de l'islam qui veut qu'on fonde quoi? Des familles. Le but, c'est fonder une famille. Des relations de sang et des relations d'alliance, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا. C'est Dieu qui a créé de l'eau un être humain, il a fait de ce lien-là quoi? Un lien de sang et un lien d'alliance. Et donc, avec ce système-là, il n'y a ni lien d'alliance, ni lien de sang, hein? ni famille, ni structure qui va permettre à la société d'être solide et de durer dans le temps. Donc, les savants, donc la majorité, donc, se basent sur l'absence d'arguments. Ce n'est qu'un ijtihad, et tout ijtihad n'est pas forcément fondé. Et en même temps, parce que ce type de mariage va à l'encontre du principe même du mariage. Et comme vous savez, chez la grande majorité des savants musulmans, même si c'est une condition de validité, ils disent que parmi les conditions de validité d'un mariage, c'est l'intention de faire durer l'union. On appelle ça en arabe, ils disent « ta'bid zawaj ». Lorsqu'on se marie, il faut avoir en tête l'idée que nous voulons faire durer cette union. Si un homme ou une femme se marie avec cette mauvaise idée, je vais défaire ce lien après un mois, ben c'est la grande majorité des savants de l'islam sunnite, le mariage il est invalide. C'est clair? Donc, hikmat al-zawaj, comme vous le savez, donc comme j'ai dit, d'autres savants disent, et ce mariage, malgré que certains hanafites, je ne dis pas toute l'école hanafite, ni l'imam Abu Hanifa, le valide, ils disent, mais dans son principe même, il ressemble à des mariages qui étaient ainsi faits au moment de la jahiliya. Donc c'est un zawaj c'est un des types de contrats à lesquels recouraient les gens avant l'islam, dans la période anti-islamique. Et comment est-ce qu'on peut accepter, puisque notre prophète a invalidé zawaj shira, hein, le mariage avec échange sans dot, dont on avait expliqué la dernière fois le principe, et qu'il est invalide, c'est la grande majorité, et certains le corrigent s'il y a eu consommation. Donc voilà, hadha zawaj al-mu'aqqat, c'est le zawaj temporaire, qui est un sous-ensemble, une sous-catégorie de zawaj al-mut'a en vérité. Simplement, à la différence, c'est qu'on institue par les termes avec lesquels on institue un mariage légal, avec les conditions. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, zawaj al-mut'a, il n'y a pas ijab wa kaboul, la demande et l'acceptation et le témoin et la mahr, tout ça, il n'y a pas. Dans zawaj al-mut'a, que je vous ai expliqué la dernière fois, il y a un homme, une femme, ils appellent même ça un salaire, comme ça, ajran et une durée. C'est ça, zawaj al-mut'a. Et je vous ai expliqué que cette durée, comme ils ont expliqué même dans leur livre, je vous ai parlé des références, même chez Ijab Khalid, ils disent que ça peut être uniquement le temps d'avoir un rapport. C'est fini. Et on a questionné de leur érudit, est-ce qu'on peut contracter cette union temporaire de zawaj al-mut'a pour une sa'a? En arabe, le mot sa'a ne veut pas dire une heure. Hein. Sa'a veut dire un instant. Dans la langue arabe. Dans la langue arabe, sa'a, c'est pas dans le sens une heure, 60 minutes. Ils ont dit donc à Abu Muhammad, est-ce qu'on peut se marier? Sa'atan qala na'am. Il est permis. Donc sa'a peut être 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Ça va? Et donc, ça c'est zawaj al-mut'a. Et donc celui-là, non, il y a les mêmes règles en vérité qu'un mariage, mais il va à l'encontre des principes même pour lesquels l'islam nous a recommandé de se marier, ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait du mariage sa sunnah. Et s'il y a quelqu'un à imiter, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et si je ne m'ai jamais marié, à terme. Donc la sunna al-amaliya, la sunna al-amaliya, la sunna pratique de Rasoul Sallam, ses compagnons, ne sont jamais mariés pour un an, pour deux mois, ou quatre mois, ou deux ans, ou trois ans, le temps de terminer mes études et je rentre dans mon pays. Donc ça c'est zawaj al-mu'aqqat, donc voilà les fondements. Et comme vous avez, je vous ai dit, donc ça peut être quelque chose d'invalide. Parmi les mariages invalides, c'est un rappel uniquement, c'est ce qu'on appelait, rappelez-vous, le fait d'épouser une femme qui était déjà demandée en mariage, qui était déjà fiancée. J'en avais parlé lorsque j'ai parlé de al-khitba, mais je vais encore rappeler le principe, c'est-à-dire de quoi il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui a fait sa demande et on a répondu à sa demande par l'affirmative. C'est ça qui est interdit. Mais imaginons, une sœur a été demandée, mais elle n'a pas donné de réponse, et deux autres se présentent, ou quatre, c'est tout à fait permis et c'est valide. Donc elle a le choix de choisir. Et je vous ai parlé de ce qui est arrivé au temps de la Rasoul Sallam avec Fatima bint Qais. Elle a été demandée par deux, et le prophète lui a conseillé le troisième, qui était Sayyidina Usama ibn Zayd. Donc c'est permis, mais tant qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc imaginons qu'il y a eu réponse par l'affirmative et quelqu'un vient demander la main et cette personne et sa famille acceptent la deuxième demande et annulent les fiançailles. Et bien l'homme et la femme, ils ont fait un interdit, ils ont commis un haram parce qu'ils n'ont pas respecté le droit d'un musulman et que l'islam n'accepte pas qu'on vienne demander la main d'une femme qui était déjà, dont la main était accordée. Comme il a interdit dans le même hadith qu'on vient surenchérir sur le prix de vente accordé à son frère ou à sa sœur, c'est-à-dire nous sommes dans une vente publique et il y a eu surenchère et la vente a eu lieu, elle a été conclue à 10 gens à 500 euros et puis après avoir eu une conclusion et on a terminé donc les enchères, un qui débarque dit je donne 700. Celui qui vient surenchérir sur le prix de son frère, il est en état de péché majeur. Il ne vient pas donner un prix après que lui, il a donné un prix et il était accepté. Si la vente va se conclure, la vente, elle est tout à fait, on va dire, le contrat est correct, mais il y a eu un haram commis. C'est la même chose ici. On vient demander la main d'une femme qui a accepté, qui a accordé sa main à quelqu'un, ainsi que sa famille. On annule la première demande, on fait le contrat de mariage, le demandeur et ceux qui ont ratifié la demande sont tous en péché, dans un état de péché majeur, haram. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les écoles? Je rappelle uniquement, je vous ai dit que l'imam Malik, rahimahullah, il est très strict, parce que le hadith de la Rasoul Sallam en matière, il est explicite, il est clair, il est sahih. La yakhtubu rajulu ala khatbati akhi. Un homme ne peut pas venir demander la main d'une femme qui était accordée à son frère. Et donc ici, il défend, et l'ordre ici de ne pas faire, nahi l'hirma, a été considéré comme une interdiction, et non pas comme une répréhension. Et donc l'imam Malik, lui, il est clair, il dit qu'il y a eu consommation ou pas consommation, le mariage est annulé, le contrat est annulé. L'imam Malik est très strict, il n'a pas dit, il a dit yufsakh. Al-Fasr veut dire on considère comme si le mariage n'existe pas. On annule. Ça, c'est la position de l'imam Malik. Et il dit après ou avant consommation. Donc, si le juge, il y a plein de déposés, il annule le mariage s'il n'y a pas eu encore de fête ni de consommation. S'ils sont mariés, ils ont consommé, l'imam Malik dit le juge annule le mariage. Parce que vous n'avez pas respecté un droit d'un musulman. L'imam Shafi'i, rahimahullah, Abu Hanifa, ils disent. On a un avis qui dit donc on va annuler avant la consommation, mais s'il y a eu consommation, on n'annule pas le mariage. On n'annule pas. C'est clair? Et puis un avis qui dit on n'annule pas du tout, mais il y a eu haram. On a commis un haram. Donc vous avez trois tendances. On annule après ou avant consommation. Un avis qui dit on annule avant la consommation, mais s'ils sont cohabités, on n'annule plus. Et un autre qui dit, on n'annule pas, le contrat il est juste, mais il y a un haram. Comme disent les Hanbalites, l'école Hanbalite de l'imam Ahmad, par exemple, quelqu'un qui fait la prière dans une maison usurpée, il a pris une maison par la force, ils disent la prière, eux ils disent que la prière est invalide parce qu'il prie dans un lieu usurpé. D'autres savants, la majorité, disent non, la prière elle est valide, mais le haram il est là toujours, c'est l'usurpation de la maison. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Voilà pour ce qui est donc de demander la main d'une personne à qui est accordée. Faites attention, pourquoi? Parce que l'islam considère que le lien fraternel est un lien sacré. Al-ukhuwatu entre les musulmans est un lien muqaddas, ribat al-muqaddas. Bien que malheureusement, on lui accorde plus beaucoup d'importance, ce lien qui est sacré. C'est un des principes fondateurs de la communauté musulmane, la notion de la fraternité. Ce n'est pas quelque chose de léger. Hein. Lorsque vous dites mon frère dans l'islam, ou ma soeur dans l'islam, ce n'est pas un mot qu'on dit à la légère. Hein. Vous devez lui accorder toute l'importance que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu nous suggérer à travers le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Innama al-mu'minuna ikhwatun, qala Allah ta'ala dans surat al-hujurat. Innama, très certainement, il a insisté, bitta'kid. Innama al-mu'minuna ikhwa. Très certainement, les croyants sont tous frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mu'minu ou al-muslimu akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. La yadhimuhu wa la yuslimuhu. Il n'agit pas en oppresseur envers lui et il ne le laisse pas tomber. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram. Tout ce qui touche au musulman, il est interdit, il est sacré. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sa vie, ses biens et son honneur. Nahna, combien on a bafoué d'honneur de nos frères, de nos sœurs. Combien on a enfreint à ces règles de l'islam. Et puis après on dit la fraternité. C'est un principe dont on rêve, mais dans la réalité il est absent de nos relations. En islam, la fraternité religieuse de la foi, elle est plus importante que la fraternité du sang et du clan. Dans notre religion, la relation fraternelle dans la foi, elle est plus importante que la fraternité, je répète, du sang. Elle est prioritaire. Donc faites attention, c'est pour ça que le prophète était clair, c'est pour ça que l'imam Malik interdit. Parce qu'il dit, vous avez enfreint à quelque chose qui touche à un principe fondateur de la communauté musulmane, qui est la fraternité. C'est cette fraternité qui est à l'origine de la naissance de notre communauté. Entre les premières générations d'islam, la première communauté de Mecca et la première communauté de la cité musulmane entre les Mekkois et les Muhajirin et les Ansar. Entre les immigrants et les alliés de la Sallam, qui étaient les Médinois. Donc comprenez pourquoi les juristes sont aussi fermes, qu'on ne peut pas surenchérir sur le prix que son frère ou sa sœur a déterminé, et qu'on ne peut pas venir casser un lien qu'un frère cherche à tisser avec une sœur pour fonder un ménage. Et toujours, tout ce qui est fondé sur le haram, il n'aura pas de conséquences bénéfiques, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala lèvera la baraka. La baraka veut dire l'abondance, le bien, le khayr dans cette union ou dans cette transaction, s'il y a eu non-respect des valeurs islamiques. Et n'oubliez pas que l'islam accorde une importance majeure à la dimension morale et éthique. N'oubliez jamais ça. Al-janab al-akhlaqi, la dimension morale et éthique, elle est fondamentale dans notre religion. Dans tout type de relation, dans toutes sortes de transactions, dans toutes sortes de relations, l'éthique doit être omniprésent. Dieu parle toujours de le ma'rouf. Le ma'rouf veut dire en arabe le bien. Lorsqu'il parle de la relation entre les musulmans, de la relation entre un homme et sa femme, d'une femme avec son mari, de père avec leurs enfants, de parents avec leurs enfants, toujours il parle de le ma'rouf, c'est-à-dire le bien. Il nous demande d'ordonner le bien. Wa'amur bil'urfi. L'urf veut dire ici le bien. Donc c'est fondamental. Donc n'oubliez jamais. La notion du bien doit être omniprésente partout. Et si on la néglige, eh ben voilà les conséquences. Donc, si on s'allie à la vie qui dit de la validité de ce mariage, que les personnes sachent, malgré le fait qu'il est jugé valide juridiquement, tous les savants sont unanimes qu'il y a eu haram qui a été commis. Un interdit qui a été commis. Et donc, qui dit interdit veut dire péché majeur. Qui dit péché majeur veut dire sanction. Alors, parce qu'un péché majeur, c'est quoi? C'est un péché pour lequel Dieu a menacé de châtiment de l'enfer celui qui s'y adonne. C'est le mot al-kabira en islam. Al-kabira, tout, le péché majeur, c'est tout péché pour lequel Dieu subhanahu wa ta'ala a annoncé qu'il a le droit de punir par le feu celui qui s'y adonne et ne s'en repent pas dans sa vie ici-bas avant sa mort. C'est le mot al-kabira. Troisième, un autre type de mariage qui est interdit et que nous constatons et que notre prophète sallam et qui était avant la période islamique et qui est resté présent même après l'avènement de l'islam, c'est ce qu'on appelle le zawaj al-muhallal. Al-muhallal. Il y a le muhallala, c'est rendre licite. C'est, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une femme qui a été divorcée à 3 reprises par son mari. Et donc la séparation, elle devient, et ce, donc c'est une séparation qui est due à un divorce irrévocable définitif. On appelle ça talaqun ba'inun bi baynunatin kubra. Divorce, donc irrévocable définitif. Lorsqu'il y a ce genre de divorce, on va y revenir lorsqu'on va détailler la question du divorce, l'homme et celle et la femme ne peuvent plus s'unir en mariage qu'après que cette femme s'unisse dans un mariage légal avec un autre homme, consomme avec lui. J'insiste sur le mot, parce que le prophète a dit, c'est-à-dire que le prophète a dit, si je traduis clairement, il a dit jusqu'à ce que l'un jouit de l'autre. Et puis si ce monsieur ou si cette femme décide de divorcer, un divorce légal, ou qu'il y a veuvage, ou tout ce que vous voulez, alors le premier mari a le droit de la redemander si elle désire, de refonder une vie de couple avec lui. C'est ça la démarche légale, après qu'il y a eu divorce à 3 reprises. Il y a divorce, il y a edda légale, période de viduité légale, il y a demande, elle se marie, elle consomme, elle vit sa vie de femme mariée, puis pour des raisons multiples liées à soit divorce ou veuvage, elle passe de nouveau sa période de viduité edda, et le premier mari, il vient la demander en mariage, alors si elle le veut, et accepte sa demande, alors ils peuvent s'unir dans un mariage légal, et donc voilà, ils sont partis pour un nouveau mariage avec les trois possibilités de divorce. Ça c'est la démarche légale. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils regrettent et qui n'ont pas pris en considération tous les avertissements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tout ce que Dieu dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala sur le fait de ne pas utiliser à la légère cette formule de divorce, et que dès qu'il y a un litige pour n'importe quoi, pour le futile et l'inutile, et parfois pour des choses vraiment qui sont du domaine du ridicule, on utilise le divorce, ou la femme, elle persécute son mari pour que lui dise « je te divorce ». Après, lorsqu'il le dit, elle vient, ou il vient, il dit « on regrette, est-ce qu'il n'y a pas en islam une possibilité pour effacer ?» Non, il n'y a pas de « mas'han » en islam, ça n'existe pas. On en parlera, il y a une seule possibilité, mais on en parlera. Mais le principe, tant que l'homme est conscient et la femme est consciente, et que le mot est prononcé, le divorce a eu lieu. Et donc, ils arrivent à 3 fois de divorce, ils regrettent l'un et l'autre. Alors ils cherchent ce qu'on appelle des ruses, à ruser avec Dieu. Hila. On ne parle pas des hila shar'iyya. Il y a des ruses qu'on appelle les ruses légales. C'est quoi les ruses légales? C'est les hanafis sont champions, c'est de donner des réponses à des situations, mais les réponses qu'ils vont donner, ils sont dans le cadre de la loi de Dieu, qui plaisent à Dieu. Et non pas on va contourner la loi de Dieu. Je donne un exemple où on contourne la loi de Dieu. Le type, homme ou femme, il a amassé de l'argent, il a dépassé avec son acquis le minimum imposable de la zakat. Il a 7 000 ou 8 000 euros qu'il doit payer ce mois-ci. Eh bien, ce mois-ci, il devient généreux. Il cherche, il n'y a pas un musulman qui veut emprunter de l'argent. Elle dit, est-ce que, Abdallah, tu m'avais parlé il y a quelques années, tu as besoin d'argent, tu ne veux pas que je prête 3 000 euros ou 4 000 euros? Inch'Allah, tu me les rembourses dans 5 mois. Une fois qu'il a prêté l'argent, il n'a plus le minimum imposable. Et alors, il va s'appuyer sur l'avis de certains juristes qui disent, lorsque on a l'argent, il n'est pas disponible, et on ne peut pas, on va dire, il n'y a pas disponibilité ni possession réelle, donc cette partie de l'argent, elle n'est pas concernée par la zakat. Et comme ça, il échappe à la zakat. Et là, un an encore pour repayer. Ça s'appelle le hiyal. On ruse avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ces gens sont en état de péché majeur, grave. Et puis il y a les ruses légales, comme les hanafites étaient des maîtres dans la matière. Un homme qui dit à sa femme, je te divorce, si tu ne romps pas, sinon tu dois rompre le jeûne, sinon je te divorce. De toute façon, déjà son serment il est nul parce qu'il ne peut pas venir faire un serment avec un interdit, obliger sa femme de ne pas rompre le jeûne, de rompre le jeûne, pour lui faire plaisir. Et en islam, on désobéit à qui que ce soit lorsqu'il s'agit de désobéir à Dieu, comme a dit la sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut obéir que lorsqu'il s'agit de, du bien. Mais lorsqu'on nous ordonne un mal, quelle que soit cette autorité, on doit désobéir. Alors ils disent, eux, ben, ils partent avec elle en voyage. Et lorsqu'il dépasse la dimension du voyage, ben, elle rend son jeûne et comme ça, alhamdoulilah, on l'a sorti lui du pétra et elle du pétra. Ça, c'est un avis des hanafites. Moi, je dis personnellement, si j'avais autorité, non, je le prends et je lui donne une bonne bastonnade. Et je ne fais pas me casser la tête à chercher un avis juridique, parce que cet homme, il est en train d'enfreindre l'islam et la moralité de l'islam et la pratique religieuse. Et je ne vais pas lui chercher un avis pour le sortir du pétra. Il mérite une bonne raclée. Mais je vous explique, c'est ça ce qu'appelle une ruse qui est légale. Donc ils ont trouvé une réponse en disant, une fois qu'ils voyagent, ils ont le droit de ne pas jeûner, ils cohabitent, oui, lui, il n'a pas à ne pas respecter son serment, et alhamdoulilah, on a sorti cette famille. Ça, c'est sans des ruses qui sont acceptées. Mais comme j'ai dit, vous voyez, dans ce cas-ci, par exemple, ça ne mérite pas de faire un ijtihad, parce qu'il fallait punir. Mais il y a des gens qui tournent. Alors, on a des gens qui contournent l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à cet homme qui s'est séparé de sa femme, il ne sait plus cohabiter avec elle, et il cherche un qu'on loue. On l'a appelé dans certains pays Taïs. Il y a le mot Taïs. C'est le bouc. Mais le faux bouc. On lui dit, voilà, en contrepartie de cette somme d'argent, tu épouses ma femme, mais tu ne touches pas. On a fait venir le faux frère ou le vrai frère, il écrit, mariage, végal, etc. Et après deux jours, on lui dit, anti-talq. Il la divorce, et puis elle fait sa'idda, entre guillemets, une fausse sa'idda, puisqu'elle n'a pas touché, et puis elle revient à son premier mari. Rasulallah s'en dans le hadith sahih, rapporté par l'imam Ahmad avec un sanad, avec une chaîne authentique, jugée authentique, et l'imam Tirmidhi et tout autre, il y a beaucoup de savants. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah al-muhallil wal-muhallal lahu. Que Dieu maudisse celui qui cherche à rendre licite une femme à son mari, et que Dieu maudisse celui pour qui on rend sa femme licite. Donc il a maudit celui qui fait ce jeu-là, et pour qui on a fait. Alors que veut dire Allah en islam? Pour que vous compreniez la gravité du terme, et que vous ne l'utilisez même pas dans votre langage habituel, lorsque vous êtes en colère ou quoi. Allah en islam, c'est le fait d'invoquer Dieu pour que cette personne soit chassée éternellement de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas maudire ni ses enfants, ni sa personne, ni un musulman, ni une musulmane, ni un animal. Le prophète Salam, il a vu, il y avait une chamelle que sa femme, que sa maîtresse avait maudite, il a dit ne la touchez pas, elle est maudite. Al-la'natu wa tardu min rahmatillah, on dit en arabe. Donc vous faites quoi? Vous décidez au nom de Dieu que cette personne, elle n'aura plus le droit éternel à la miséricorde de Dieu. Ici, notre prophète a invoqué quoi? La damnation éternelle. La damnation de Dieu éternelle à celui qui rend une femme licite à son mari ou celui qui, pour qui cela a été fait. Al-muhallil wal-muhallal lahu. Donc, al-muhallil, c'est le fa'il. Wal-muhallal lahu, c'est le COD. Maf'oul. Donc, tous les deux sont mal'onis. Mais malheureusement, il y a des gens qui le font. Jusqu'à nos jours. Alors que la malédiction de Dieu, elle est là. Alors imaginons quelqu'un à qui on a rendu sa femme licite. Et il se remarie avec elle. Quelle est la situation? Eh bien, leur situation, c'est qu'ils sont en état de fornication. Jusqu'à leur mort. Et tous les enfants qui résultent de ce lien sont considérés dans notre religion des enfants illégaux, illégitimes. Voilà ce qui en découle, et c'est pour ça que donc c'est un iqd qui est unanimement batel, parce que, et on a compris que c'est un iqd batel par la damnation que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait planer sur ceux qui agissent ainsi. Et donc c'est l'avis le plus fondé de celui des écoles juridiques. Est-ce que c'est clair? L'imam Malik dit que c'est un mariage qui est à annuler. Et l'avis de certains juristes qui disent on le corrige, leur avis, il est infondé. Quand est-ce qu'on le corrige, peut-être, s'il consomme? Mais de toute façon, le principe, comme je vous ai dit, de ce mariage, c'est qu'il n'y a pas consommation. C'est ce qu'on appelle actuellement, en vogue, ici, on appelle le mariage blanc. C'est celui-là, c'est un mariage blanc. Mais simplement, le mariage blanc qui est en vogue et qui est jugé par tous les savants musulmans, puisque c'est un type de mariage maintenant qui existe, on va en parler rapidement, puisqu'il est à nouveau, c'est l'homme qui donne de l'argent à une femme contre un contrat sans consommation pour qu'il puisse avoir les papiers. Tous les savants musulmans contemporains sont unanimes, c'est un mariage invalide. Parce qu'il ne répond pas à ce que nous avons dit dans la définition du contrat. Rappelez-vous, le contrat, on a dit que parmi les choses à lesquelles donne accès le contrat de mariage, c'est l'union et la consommation. Donc, et en plus, il n'a pas donné de mahr, il a donné un prix. Il a donné de l'argent, 50 000 euros. Dans le temps, je me rappelle, c'est jusqu'à 100 000, 150 000 francs belges pour avoir un papier. Et d'où le fait qu'actuellement, on ne donne pas de documents à beaucoup de gens parce qu'on considère que le lien est un lien qui n'est pas légal. Et je vais encore vous surprendre, je suis témoin et je suis au courant de gens qui ont même fait des choses horribles, qui vont à l'encontre de l'islam, qui ont fait venir leur sœur sous un autre nom de famille pour qu'elle puisse avoir le papier et s'y marier lui avec elle, pour que sa sœur ait les papiers. C'est des choses horribles qu'on fait. Donc, il fait venir sa sœur et il se marie avec elle, un mariage blanc, mais qui est juste du point de vue apparence, pour qu'elle puisse avoir les papiers de séjour. Il y a ceux qui ont présenté leur sœur à des non-musulmans. Marie-toi avec elle à blanc, comme ça, pour qu'elle puisse avoir les papiers. C'est quoi le musiba? C'est des musulmans, ça? Pour avoir un carte de séjour. Pour quoi? Pour manger les frites. Quel bonheur on cherche. Moussiba, Allah, Moussiba. Non, respect de l'islam. Donc voilà les gens jusqu'où ils sont arrivés. À se moquer d'eux-mêmes, de la loi de Dieu et des autres. Et puis ils disent pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi il y a mépris. Pourquoi Allah est en colère. C'est normal qu'il est en colère. Ça, c'est le mariage blanc. Moi, j'appelle ça mariage noir. Il n'est pas blanc, il est obscur par les péchés qu'il véhicule. Et puis après, comme j'ai dit, on se pose des questions. Pourquoi Rabbi subhanahu wa ta'ala, il est en colère? Il est en colère parce qu'on est en train de bafouer tout, même les principes moraux. Hein. Vous imaginez un peu vous-même cette situation où le type ment jusqu'à même prétendre que sa sœur, elle est sa femme, pour lui faire des papiers. Et puis il divorce. Invalidité. En plus de la colère de Dieu sur eux. C'est clair? Est-ce que je peux, c'est un frère qui est un bon pratiquant, il est gentil, est-ce que je ne peux pas lui faire un mariage blanc pour qu'il puisse avoir un séjour? Si c'est un frère, il doit respecter les lois de Dieu qui dit que c'est haram. Le mot frère, il est déplacé là-dedans. On utilise la fraternité là où il faut pas. Hein? Là où il faut pas, on utilise le nom de Dieu, de l'islam, de la fraternité, de la bonté. Il n'y a pas, on ne bafoue pas les règles morales. En islam, on a un principe que vous ne devez jamais oublier. Qui est à l'encontre de ce que nous voyons dans la politique. Al-ghayatu la tubarrir al-wasila, disent nos savants. Le but ne peut pas justifier le moyen. En islam, ils disent le but doit être noble et les moyens doivent être nobles. Le but doit être légal et les moyens doivent être légaux. Lorsque j'utilise le mot légal ici, c'est pas légal dans le sens, c'est-à-dire la loi ici. Le mot légal, c'est pour traduire le terme shara en islam. Ils disent la budda an yakuna al-maqsad shar'iyan wal wasilatu shar'iyya. La finalité doit être conforme à la loi de Dieu et les moyens doivent être conformes à la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas dire oui, mais parce que moi je veux construire une mosquée, c'est pour ça que j'ai acheté les billets de tombola. Non, c'est haram, les jeux de hasard sont haram, point à la ligne. Oui, parce que nous sommes des musulmans, on a de nos besoins, alors on a braqué une banque, c'est pour fisabilillah. Non, c'est du vol, c'est haram. Oui, parce que les musulmans, ils ont besoin d'argent, ils sont seuls dans le monde, ils sont persécutés, alors c'est pour ça qu'on fait trafic de drogue. Non, c'est haram. Parce que la drogue, elle est haram unanimement, le hadith de Rasulullah, il est clair. Qala sallallahu alayhi wa sallam, naha Rasulullah an kulli muskirin wa mufattirin. Le prophète sallam a interdit tout produit enivrant et tout produit mufattir, qui rend la personne comme une lavette là, ça y est. C'est ça le mufattir. Ali, le photo vraiment, il est ailleurs. C'est le hadith sur lequel se base pour interdire la drogue. Elle est stupéfiante. Voilà, ça, les textes sont clairs. Donc en islam, vous ne pouvez pas justifier, soi-disant le but est noble, alors je peux le remplir par des moyens illégaux. C'est interdit unanimement. Al-ghayatu la tubar al-wasila en islam. Le but ne peut pas justifier les moyens en islam. J'insiste. Et c'est unanime, c'est tous les savants musulmans. Ils disent il faut que le but soit légalement admis et les moyens doivent être légalement admis. Parce que notre religion est une religion de morale. Dinana din al-akhlaq. Et on ne peut pas, au nom de l'islam, commettre l'interdit. Il est hors de question. Sauf dans certaines situations de contrainte, et lorsque cette contrainte ne vous concerne que vous-même. Ça, c'est autre chose qu'on appelle daroura. Mais daroura aussi, c'est un débat trop long. Parce que des gens, ils croient que c'est un cheval, on peut monter daroura, et on justifie tout en son nom. Voilà donc pour ce qui est des zawaj al-muhallal ou al-muhallallah. Maintenant, il y a maintenant un mariage, un nouveau type de mariage, comme j'ai parlé de mariage blanc là. J'ai dit on doit l'appeler Msaoud, c'est même pas Aswad. Il y a un mariage qu'on appelle le mariage Zawaj al-Messiar. Ce type de mariage, il est en vogue maintenant, surtout dans les pays du Proche-Orient, pour des raisons. Première raison, c'est que le nombre de femmes est en train d'augmenter par rapport au nombre d'hommes, et c'est une constatation qui n'est pas uniquement au Proche-Orient, même dans les pays, tous les pays arabes et dans le monde. Il y a de plus en plus de femmes que d'hommes, point de vue chiffre et statistique, ça c'est une vérité. Et vu que l'islam est une religion, quel que ce soit clair, est une religion qui a une base morale concernant la relation homme-femme. L'islam, il n'accepte pas et ne tolère pas les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage légal. Ça, c'est un principe indiscutable dans notre religion. Alors, il donne des possibilités. La polygamie, s'il y a accord. Beaucoup de savants musulmans contemporains, ils ont ajouté, ils ont dit, et on peut même faire un cadre, et que ça ne doit pas comme une sorte de porte ouverte, on fait comme on veut. Et les juristes musulmans contemporains disent, il revient au chef de l'État musulman, lorsqu'on parle du vrai chef de l'État musulman, de mettre des règles pour qu'on ne dispose pas de cette permission vraiment d'une manière qui nuit. Ils ont le droit. Et ça peut se faire, il y a unanimité sur la possibilité de mettre des limites. Parce que ça devient de l'abus. Et du jeu. Ça, c'est une. Deuxième raison, donc j'ai dit le nombre de femmes qui est en augmentation. Deuxième raison, c'est la cherté de la vie et les moyens qui manquent. Et surtout, il y a certaines régions où les dots sont des dots très élevés et les jeunes n'arrivent plus à pouvoir faire ça leur demande et fonder un foyer. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on voit de plus en plus, dans beaucoup de pays musulmans, des filles musulmanes qui arrivent à un âge où elles risquent de ne plus être même fécondes et de ne plus pouvoir avoir d'enfants. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui arrivent à l'âge de la ménopause sans s'être mariées. De plus en plus. On appelle ça al-unousatu, le terme technique en arabe. Al-unousa, c'est lorsqu'une femme arrive à l'âge risqué où elle ne sait plus peut-être devenir une maman. Et vu que dans certains pays, alhamdoulilah, la morale est encore présente, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui te disent « Moi, j'ai pas envie d'être une maîtresse. J'ai la foi, j'ai la crainte de Dieu, et puis j'ai le respect de ma personne. Je veux pas être ballottée d'un type à l'autre comme un objet de plaisir. Je veux être une femme respectée dans la société, qui a le statut d'une mère, d'une épouse. » Et donc, certaines femmes disent « Moi, je suis prête. » Puisque le prophète avait dit un hadith sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Al-muslimuna anda shurutihim » Les musulmans respectent les conditions qui s'imposent les uns les autres, excepté lorsqu'il s'agit de conditions qui vont rendre licite un interdit ou ils vont rendre interdit un licite. Alors là, la condition, elle est caduque. Mais si la condition ne rend pas un haram halal ou un halal haram, eh ben, les musulmans peuvent s'imposer ces conditions. Alors cette femme dit, ce genre de femme dit, moi je suis prête dans le contrat de stipuler que je laisse tomber mon droit à la pension alimentaire. à la prise en charge. Parce que vous savez très bien que la prise en charge, en islam, on en a parlé, nafaqa, elle est due à l'homme, même si la femme travaille. Donc c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la famille. Et donc elle dit, moi, nafaqa, j'en veux pas. Alhamdulillah, je suis aisé, j'ai assez de moyens. Surtout, il y a des sœurs qui sont de famille aisée ou qui ont un poste important dans la société. Elle te dit, moi, j'ai pas besoin de son argent. Je laisse tomber ce droit qui est nafaqa 1, et je laisse le deuxième droit de présence permanente dans la famille. J'accepte s'il est marié, même que je sois une deuxième épouse et qu'il vient, j'ai des rapports dans le halal, j'ai des enfants dans le halal, et non pas en cachette en faisant le haram et la misère. Donc, en vérité, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle recherche cette femme? Il faut dire les choses clairement, d'une manière crue, elle cherche le plaisir, mais dans le halal, et d'être respectée. Et pourquoi pas même être une maman. Dans le cas où elle a encore la possibilité d'avoir des enfants. Voilà. Ça, c'est un problème qui est vrai maintenant. Dans beaucoup de pays musulmans, où nous avons de plus en plus de femmes musulmanes qui ne savent pas se marier, pour ces raisons-là. Soit parce qu'elles sont plus nombreuses, et c'est une vérité, pour de bon, constaté par des chiffres et tout, ou parce que les hommes n'ont plus les moyens, avec, comme vous savez, comme crise qu'il y a dans le monde, et surtout dans le monde arabo-musulman, où la pyramide des âges, elle est renversée. Chez nous, la pyramide des âges, le bas, ce sont les plus jeunes. Et plus vous allez vers le haut, c'est des vieux. En Europe, la pyramide, elle est renversée. Le bas, c'est des personnes âgées, et vers le haut, ce sont les plus jeunes. Dans nos pays, on arrive à 60, parfois 70, parfois dans certains pays musulmans où c'est des gens entre 18 et 30 ans. Mais ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Et d'un autre côté, on veut qu'il y ait respect de l'islam sur le plan moral et des relations hommes-femmes. Alors certains savants, je n'ai pas dit que tout le monde est d'accord. Certains, peut-être parce qu'ils voient comment j'expose la chose, ils disent il est pour. Non, non, je suis en train d'exposer d'une manière objective, c'est tout, hein, je ne suis pas pour. Moi, personnellement, je n'accepterai pas pour ma vie. Mais c'est un mariage qui existe, et certains savants musulmans, tels que, je vous donne les noms ici, par exemple, vous avez Cheikh Al-Qaradawi qui ne l'interdit pas, il dit que je ne suis pas pour ce mariage, mais je ne peux pas l'invalider puisqu'il réunit toutes les conditions de validité. Vous avez l'ancien mufti de Tantawi qui est mort de l'Azhar, qui l'a validé. Vous avez certains savants musulmans d'Arabie et de la région du Golfe qui l'ont permis. Par exemple, ici j'ai le nom, par exemple, Suleyman ben al-Mniya, donc qui le permet. Un autre aussi, vous avez Nasruddin Farid Wasl, qui est le grand mufti d'Égypte, qui le permet. Donc on a le Cheikh Al-Azhar, on a le Mufti d'Égypte, on a le Mniya d'Arabie, donc Qaradawi qui dit la forme elle est tout à fait valide, mais je ne suis pas chaud pour valider ce mariage. Donc on a des savants contemporains qui valident, et le valident pour les raisons que je viens de citer. Hein. N'oubliez pas les deux là que j'ai cités, Abdallah ibn al-Mniya et les membres du Conseil supérieur des ulama de l'Arabie Saoudite. Et vous avez aussi l'autre, comme j'ai dit, le Mufti d'Égypte. Et l'autre, c'est le Cheikh d'Al-Azhar. Donc, ils le permettent parce qu'ils disent, voilà, il y a une réalité, et il faut répondre à cette réalité-là. On ne peut pas dire, nous, on ne voit rien, c'est haram, salam alaykoum, mais il dit, on va pousser les gens à faire zina. Donc, voilà. Ce que s'appelle Zawaj al-Messia. Donc, je répète, c'est un mariage qui réunit toutes les conditions légales, sauf la femme, elle ne réclame pas dans son contrat un nafaqashar qui est indu à l'homme, la prise en charge, ainsi que la présence permanente dans le foyer conjugal. Mais le reste, c'est les mêmes conditions du mariage. Alors, si elle ne réclame pas un nafaqa, elle peut aller jusqu'à même ne pas réclamer le mahar. Il y a des femmes, on a fait des statistiques il y a 4 ans en Égypte, 70% des femmes cultivées en Égypte, cultivées, hein, ce n'est pas des femmes du peuple ou quoi, acceptent d'être une deuxième épouse. Pourquoi? Parce qu'il y en a un nombre important qui arrive à l'âge de l'unoussa et qui ne savent pas se marier. Elle te dit, moi je préfère être une deuxième épouse et me marier que de me trouver seule, sans épouse, sans enfant, sans rien du tout. Et ce sont des femmes cultivées. Et n'oubliez pas que l'Égypte est un des premiers pays arabo-musulmans où il y a eu l'émergence du féminisme. C'est l'Égypte, hein. Le féminisme égyptien est très connu et il est très puissant même. Et donc il y a une vague de féminisme. Et je vais vous dire une chose, beaucoup de gens croient que l'élite égyptienne, elle est de culture anglaise, l'élite égyptienne est de culture française. La grande élite et ceux qui se disent bourgeois ouverts, etc., ce sont les gens qui sont francophones. Vous constatez même dans certains de leurs séries, merci, etc., ils disent ça, c'est pour dire que c'est l'élite bourgeoise, intellectuelle, moderne. Avec le mot qu'on doit définir, que veut dire être moderne. Donc voilà donc ce que consiste ce mariage. Maintenant, quels sont ses effets? Ben, pour moi, les effets, premièrement, c'est que ce genre de mariage contredit l'esprit du mariage en islam. Il vient vraiment changer. Donc, ils disent aussi qu'il y a des retombées négatives sur la famille et sur la communauté. Un homme qui vient que pour cohabiter sexuellement, on va dire les choses clairement. Au lieu de faire ça dans le haram, je le fais dans le halal. Voilà. C'est ça, en vérité. C'est louable, hein? Moi, je considère que c'est louable une femme qui dit, moi, je ne veux pas être tombé dans le haram. Je ne veux pas faire cela alors que la société même peut-être lui permet. Mais dit non, je ne veux pas, par respect à ma religion, j'ai la foi, j'ai la crainte de Dieu, et en même temps, ma dignité m'interdit de me laisser aller à des situations pareilles. Donc c'est quelque part, c'est louable, c'est de ces femmes qui ne veulent pas tomber dans zina. Mais il y a quelque chose qui est à critiquer, c'est que ça ne va pas avec l'esprit même du mariage en islam, ni de la famille. Comment est-ce qu'elle doit être formée? Autre chose qui est dangereuse, c'est que cet homme, il se sent dégagé de toute responsabilité, il peut aller jusqu'à même se dégager de tout. Et l'islam, non. L'islam, il dit que l'homme, il est responsable. Il est responsable au niveau d'accord de... Nous avons des prises en charge, mais même de l'éducation, de la directive familiale, au niveau moral, spirituel et autres. Ce n'est pas uniquement au niveau d'une relation. Dieu n'a pas demandé, il n'a pas dit que le viril d'entre vous, il se marie. Il n'a pas dit ça, mais il a dit celui qui a la capacité de subvenir aux besoins d'une famille. Ya ma'ashara shababi, man istata'a minkum al-ba'ata, falyatazawwaj. Oh vous, jeunes gens, celui qui peut assumer sa responsabilité pécuniaire, et ça sous-entend autre chose aussi, qu'il se marie. Il n'a pas dit celui qui est viril et un mâle, il peut se marier. Donc le mariage n'est pas uniquement dû parce qu'on est un mâle, mais non, parce qu'on est capable de fonder une famille et de subvenir aux besoins et d'assumer la charge. C'est ça, donc on a un homme qui se dégage et en vérité, il devient uniquement qu'un partenaire sexuel, dans un cadre licite. C'est-à-dire, c'est comme si on a certains même qui critiquent ce mariage, disent en vérité, c'est une maîtresse, mais halal. Le mot halal est en vogue maintenant partout. Halal, 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 partout, vous voyez le mot halal. Et donc ils disent, c'est une démarche qui est tout à fait ridicule. C'est au lieu que ce soit du zina, mais c'est du zina halal. Et donc ils disent que ça fait perdre au mariage toute la valeur pour laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a institué. Et la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le mariage et la cohabitation dans le cadre du mariage comme un des signes de Dieu, de la grandeur de Dieu. Wa min ayatihi et ils disent, et la finalité du mariage, elle n'est plus, puisque Dieu dit que la finalité du mariage, c'est sakan. C'est quoi sakan? C'est de trouver la quiétude, la paix affective pour l'homme et la femme. Et là, il n'y a pas de quiétude, il n'y a rien du tout. Il y a une relation, puis assalam alaykum à la semaine prochaine. Ben c'est ça. Alors que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, que le mariage qui est un de ces grands signes, les taskunu ilayhi wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Où est cette tendresse dont Dieu parle dans le Coran? Où est cette affaire, compassion? Elle n'existera pas dans une relation domiciale. Donc, comme j'ai dit, vraiment, ça se réduit à une relation uniquement sexuelle à qui on a donné le cadre de la licité. Ce qui fait que... Beaucoup de savants comme Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah et d'autres ne le valident pas. Ils considèrent que c'est un mariage qui n'est pas conforme au mariage musulman tel qu'il a été institué par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en pratique. Donc voilà, donc concernant les mariages, donc j'ai terminé cette série de mariages sur le mariage depuis sa constitution, en passant par les éléments constitutifs du contrat de mariage, à savoir, donc, nous avons parlé de la formule, as-siratu, nous avons parlé, mais déjà avant de parler de la formule, on a parlé de l'introduction qui est le khutba, et de ses conditions et de ses conséquences en cas de lorsqu'elle a eu lieu et a ratifié, ou en cas d'annulation. On a parlé donc du mariage, de sa définition, et j'aimerais bien que vous gardiez les deux idées principales pour que vous compreniez l'importance de cette union. C'est à partir des définitions que je vous ai données du terme. Je vous ai dit, on désigne le mot mariage en arabe par soit an-nikah ou az-zawaj. Et je vous ai dit, an-nikah veut dire entrelacement, jusqu'à ce qu'on ne peut pas différencier l'un de l'autre. Et je vous ai donné la référence de la langue arabe de Ibn Manzur dans son livre Lisan al-Arab, le dictionnaire, dans lequel il dit, on dit tanakahat al-ajjar, c'est lorsque les arbres, deux arbres, trois ou quatre, s'entremêlent leurs branches, jusqu'à ce qu'on ne peut pas différencier un arbre d'un autre. Alors prenez cette idée-là, mettez-la dans votre esprit, ce que veut dire un mariage lorsque vous mariez. C'est un entremêlement. Il y a plus de un, il y a deux qui s'appellent le couple, Zawjiya. Et ils font, il n'y a plus un qui pense en termes de je, mais on pense en termes de nous, on fonctionne en termes de nous. Et si on arrive à réaliser ce sens littéral dans le concret, il n'y aura pas ces problèmes que nous constatons dans les couples musulmans, surtout de nos jours. Et l'autre terme, c'est az-zawaj. Je vous ai dit que la racine nous renvoie au sens de le fait de se dissoudre dans l'autre. Az-zawaj, dans la langue arabe, nous renvoie à l'idée de dissoudre, se dissoudre. Ce qu'on ne va plus faire, on ne constate pas l'autre. C'est-à-dire, à travers l'homme, on voit la femme, à travers la femme, on voit l'homme. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on entreprend ce projet, on doit comprendre pourquoi on l'entreprend et pourquoi est-ce qu'il est important en islam. Et puis après, j'ai parlé donc des éléments qui constituent ce contrat, à savoir donc la demande, la formulation de l'ijab al-qaboul, puis je parlais de tuteur, et de ses conditions, de la définition de la tutelle et les conditions, qui sont les tuteurs, le rôle, etc. Puis j'ai parlé de l'époux et de l'épouse et de leurs conditions, de leurs droits et devoirs. J'ai parlé des témoins, j'ai parlé de l'mahr sadaq, la dot. Et puis j'ai parlé, je crois, de al-kafa'a, l'équivalence, qui est considérée par certains comme un élément important. Et puis après, je suis passé et j'ai parlé donc des différents types de contrats, donc qui sont invalides, et quelles sont les situations où on peut corriger selon certaines écoles, pour finir par quelques types, quelques sortes de contrats contemporains. Et là, j'ai insisté sur le contrat temporaire qui a existé en vérité avant le Jahiliya. Puis j'ai parlé du contrat mariage blanc, et puis j'ai parlé du zawaj al-messia. Voilà donc concernant donc ces contrats. Ainsi, nous avons terminé avec l'aide de Dieu tout le premier chapitre qui parle du mariage.